Bonjour Hugo, bonjour à tous. Les vignes mais aussi les arbres fruitiers ont souffert du gel ce début de semaine. À suivre dans ce journal l'analyse d'un expert. Le forum Bien Vieillir, initié par le Centre socioculturel du Pays Mont-Léonais mardi à Sainte-Bain-de-Bobigny, a permis de découvrir des solutions alternatives à la maison de retraite. Le forum Job d'été et emploi saisonnier de l'Aglo de B fait son retour ce samedi à Bocapol avec en nouveauté un atelier consacré à l'irréputation. Une très belle exposition rétrospective des 36 heures non-stop qui ont marqué la vie cerisienne dès le début de la décennie 70 est actuellement proposé par la bibliothèque. Assure également dans cette édition un mini-concert ce vendredi 8 avril à Saint-Jean-de-Thouars, en avant-première d'un concert solidaire en septembre. Les Diaboliques ont repris des couleurs à Niort. L'association qui réunit des cinéphiles propose des soirées spéciales en version originale sous-titrée. Quant à la météo, nuages et pluies seront omniprésents cet après-midi. L'épisode de gel qui s'est manifesté le week-end dernier, en particulier dans la nuit de dimanche à lundi, va-t-il laisser beaucoup de traces dans les vergers? Ce fut un épisode sévère, la nuit la plus froide depuis 1947, qui intervient après une période douce et ensoleillée, favorable à l'éclosion des bourgeons. Alors, quelles conséquences pour les arbres fruitiers qui ont déjà souffert en 2021? L'analyse du Gâtinais Benoît Piron, consultant, technicien indépendant et enseignant en arboriculture biologique, joint par Fabien Gazeau.
Au stade de floraison et de noison de certains fruitiers, des températures qui ont avoisiné sur certains secteurs entre moins 3 et moins 7, ça fait d'énormes dégâts, quoi. Donc oui, il y a un gros, très gros risque cette année, en tout cas. Voilà.
Quelles sont les productions qui souffrent le plus finalement?
Les frais noyaux, principalement les abricots, pêches, voire certains secteurs de prunes. Et puis après, bien sûr, les poires derrière, parce que les poires, elles étaient fin de floraison. Et donc, du coup, il y a beaucoup de vergers de poiriers qui sont touchés. Pour les pommes, j'ose encore espérer qu'on va sauver des fruits. Par contre, à savoir que sur le Poitou-Charentes, tout Poitou-Charentes est quasiment touché. Un peu moins en Vendée, faut dire ce qui est. Et puis, par contre, terriblement dans le Limousin et la Corrèze. Là, c'est aussi catastrophique.
Le constat est donc à la désolation pour les arboriculteurs qui vont devoir se battre sur le plan financier en espérant des aides à la hauteur. Et puis, il va falloir s'adapter au changement climatique à travers les variétés, les méthodes, mais aussi les techniques.
Aujourd'hui, on a vraiment maintenant des mois de février qui sont de plus en plus chauds. Tous les arbres fruitiers débourrent plus tôt, c'est-à-dire se mettent à fruits et à fleurs le plus rapidement possible. Et forcément, comme on sort plus tôt en végétation, le moindre incidence est dramatique. Donc après, dans les conseils, c'est bien sûr pour ceux qui peuvent s'équiper à chaque fois, chaque année, on s'équipe de matériel adéquat. Maintenant, il faudrait qu'on ait aussi peut-être des aides d'État pour pouvoir financer certains matériels, chaufferettes, éoliennes, tout ce que vous voulez, aspersion et tout, ça c'est pas toujours évident. Après, on peut avoir des conseils au niveau, de choix de certaines variétés qui sont un peu plus tardives.
Le mieux, c'est de pouvoir diversifier si c'est possible.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, dans l'agriculture, je pense qu'il va surtout falloir diversifier et multiplier ces ateliers, d'abord en espèces fruitières, et puis après, pourquoi pas, peut-être avoir des exploitations un peu moins importantes, et puis avoir des ateliers, pourquoi pas, d'apiculture, de volaille, etc. Tout pour, parce que quand on met tous les œufs dans le même panier, notamment au niveau de l'arboriculture fruitière. Moi, je l'ai connu aussi en tant qu'ex-arboriculteur, où j'ai gelé et grêlé 2 années de suite. Je peux vous dire que c'est très difficile. Voilà.
Benoît Piron, consultant et technicien indépendant auprès des arboriculteurs qui viennent donc de subir un épisode de gel dévastateur en début de semaine. Le succès du forum Bien Vieillir, initié par le Centre socioculturel du Pays Mont-Léonais mardi dernier à Saint-Aubin-de-Bobigny. Il est vrai que la proposition suscitait l'intérêt, outre les stands partenaires où les seniors étaient venus chercher l'info sur le maintien à domicile. Un camion appartement témoin leur permettait d'ailleurs de se rendre compte des aides techniques et technologiques disponibles sur le marché. Les visiteurs ont aussi pu écouter des témoignages sur des solutions alternatives à la maison de retraite. Exemple, avec une expérience réussie à Fontaine-Guérin, les Bois d'Anjou, dans le Maine-et-Loire, un petit bourg de 1000 habitants qui dispose depuis 2017 de 4 appartements T2 et des espaces partagés dédiés aux personnes âgées. L'association Habit Âge, qui porte le projet, milite pour un urbanisme circulaire, limitant l'étalement urbain par la restauration du patrimoine bâti. Écoutez plutôt l'un des cofondateurs de l'association, André Dormeau, au micro-colline de Jacqueline Pinon.
Nous avons mis 4 ans, donc avec 5 bénévoles, pour mettre sur pied cette nouvelle structure tout à fait innovante, qui donc permet à des personnes âgées de se sentir entourées, Donc chacun chez soi, mais entouré. Et évidemment, il a fallu trouver le financement. Nous nous sommes débrouillés pour auprès des caisses de retraite, des pouvoirs publics, conseil régional, etc. Parce que les logements sont accessibles à des personnes ayant un certain revenu. Ils payent 400 euros par mois de loyer. Donc ce qu'il faut que ces logements soient vraiment accessibles à toute personne. Et donc c'est des logements qui sont complètement rénovés, de plein pied, très bien aménagés, avec une salle de convivialité où les personnes peuvent recevoir celles qu'elles ont envie, organiser des activités, fêter leur anniversaire, même loger des personnes puisqu'il y a une possibilité de logement. Et donc tout ça, ça nécessitait effectivement un gros financement. Et notre première maison, on n'a pas peur de le dire, elle nous a coûté 500 000 euros.
Toujours dans le Maine-et-Loire, à Saint-Macaire-en-Mourges cette fois, c'est au tour d'un habitat participatif intergénérationnel que l'aventure est lancée. Elia Chasseron-Fauché, la présidente de la société coopérative Voisine Âge, qui gère le projet. Explication aux côtés d'un autre de ses membres, Dominique Fauché, toujours devant Jacqueline Pinon.
Nous sommes engagés dans un projet qui, pour l'instant, a vu le jour en 2016. Nos maisons ne sont pas encore construites, c'est un travail de longue haleine, puisque nous sommes tous des coopérateurs. Nous avons mis des parts sociales dans ce projet, mais après, nous serons locataires de nos maisons.
Adaptés PMR, les rez-de-chaussée sont accessibles.
Quel est le coût ?
Environ 2,5 millions de travaux, tout compris.
En tout cas, nous sommes tous extrêmement motivés et c'est vraiment une aventure absolument passionnante. Nous aurons des espaces partagés aussi, jardins, une maison commune pour pouvoir organiser des ateliers, des rencontres, des repas conviviaux, accueillir des amis. Voilà, c'est vraiment des échanges de services, des échanges de savoirs. Moi je suis la plus âgée pour l'instant, 70 ans, et la plus jeune, elle a 4 ans. Il y en a des jeunes foyers et puis quelques foyers qui sont seniors.
8 foyers sont d'ores et déjà engagés dans ce dernier projet. Projet présenté mardi dernier lors de ce forum à Saint-Aubin-de-Bobigné. Autre forum, celui des jobs d'été et emplois saisonniers de l'Aglo de Bée qui fait son retour ce samedi en présentiel. Après 2 années presque blanches, des versions virtuelles avaient été proposées en 2020 et 2021 avec seulement quelques dizaines de participants à chaque fois. Cette fois-ci, le forum fait son retour à Bocapaule, samedi de 10 à 16 heures. Christine Jacquet, chargée de projet, ne cache pas son impatience de renouer avec ce rendez-vous qui permet aux jeunes de rencontrer des recruteurs.
Je vous garantis qu'on est vraiment très très heureux de reprendre à Bocapaule avec les partenaires et à nouveau accueillir physiquement tous ces jeunes du bocage qui cherchent effectivement un travail pour cet été ou pour la saisonnalité de avril à octobre.
Et des recruteurs au rendez-vous parce qu'on le sait, le bassin d'emploi est pourvoyeur, notamment pour les jobs d'été. Combien de recruteurs cette année ?
J'aurai 25 espaces de recruteurs cette année, donc je suis très très contente. Ils ont répondu tout de suite présent, même si j'en ai quelques-uns qui étaient là en 2019 et qui, pour raison de non-disponibilité, ne seront pas là. Je suis quand même satisfaite d'avoir 25 recruteurs pour le forum.
Alors des recruteurs, mais aussi des partenaires, puisqu'ils vont animer des ateliers.
Oui, il y aura un espace Les Clés de l'Emploi qui seront animés par la Maison de l'Emploi, par Pôle Emploi, par les animateurs référents jeunesse.
Et parmi les ateliers, la nouveauté est celui qui porte sur la e-réputation. Un détail qui n'en est pas un, les recruteurs étant en effet très attentif à l'image que l'on peut laisser sur la toile. Atelier qui sera animé par Véronique Vrignot de l'agence ADECO.
On va être sur le credo des jeunes et des personnes qui utilisent les réseaux tous les jours mais qui n'ont pas forcément de stratégie par rapport à leur e-réputation pour demain leur recherche d'emploi. Donc on va vraiment travailler là-dessus sur des conseils, sur les réseaux sociaux professionnels qui peuvent les aider sur la recherche d'emploi ou d'alternance et que la recherche d'emploi ça se travaille dès le plus jeune âge notamment avec le réseau social LinkedIn professionnel où je serai là pour répondre à leurs questions et puis également tester, et googliser les personnes qui le souhaitent pour voir si effectivement leur e-réputation à aujourd'hui est au top. On a aussi le droit à l'oubli et le droit des informations que l'on publie. Il y a un moment où il y a des informations qui peuvent nous échapper et je serai là aussi pour leur expliquer comment on se met dans le droit à l'oubli ou comment pallier un contenu qui ne peut nous porter préjudice, comment le transformer en plus positif.
Le forum job d'été et emploi saisonnier, c'est donc ce samedi 9 avril de 10 à 16 heures à Bocapaule-Bressuire. C'est une très belle exposition rétrospective qui se tient durant tout ce mois d'avril à la bibliothèque de Cerisé. Elle est consacrée aux 36 heures non-stop organisées durant une quinzaine d'années à partir de 1972. À l'origine, une bande de copains regroupés au sein d'un comité des fêtes qui aujourd'hui n'existe plus. Durant 36 6 heures sans interruption. Toute la ville de Cerisay était en fête avec des animations de part et d'autre, avec à chaque année une thématique. Une véritable institution présentée donc sous la forme d'une exposition. Exposition très fournie, très détaillée. Aboutissement d'un projet mené pendant plusieurs mois par Clé Ayou dans le cadre d'un stage réalisé au centre socioculturel du Cerisayen.
J'ai eu des rencontres avec des seniors de l'EHPAD de la Cressonnière, notamment de l'EHPAD de Nicolas Sibiliano. Et ensuite, grâce à des prénoms qu'on m'avait déjà donnés, j'ai pu passer beaucoup d'appels. Et la liste ne cessait de s'agrandir en fait au fur et à mesure du projet. Après, les rencontres avec des personnes extérieures, ça me permettait, moi, d'apprendre des choses, de pouvoir enregistrer des témoignages. Et voilà, ça me permettait de remettre des souvenirs sur ces fêtes. On a des coupures de journaux, du coup, que j'ai récupérées à la mairie dans les archives où des personnes avaient conservé. On a des photos que les personnes avaient conservées également, qu'elles nous ont transmises. On a des vidéos aussi que certaines personnes avaient tournées au moment de ces fêtes. Et on a également des témoignages donc écrits et audio donc, que j'ai pu récupérer au cours de mon projet.
Est-ce qu'il y a une chose que vous a marqué en particulier ?
Voir les photos des fêtes western, c'est vraiment impressionnant. Ils avaient redécoré toute la ville et c'était vraiment, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait.
C'est dommage que ça n'existe plus ?
Oui, c'est vrai. On m'avait proposé de le refaire, mais ça demanderait une organisation incroyable et même au point de vue sécurité, je ne sais pas si ce sera encore possible aujourd'hui.
Chaque année, durant 15 ans, donc depuis 1972, quelques 150 bénévoles étaient mobilisés pour faire vivre ces 36 heures non-stop. Une vaste fiesta qui a drainé un public bien au-delà des frontières de Sévrienne. Raoul Vessière, cheville ouvrière des premières heures, se souvient.
Oh, c'était un événement très large sur le plan géographique, je dirais, puisque nous allions de la Roche-sur-Yon jusqu'à la Ferrière. De l'autre côté, c'était de Cholet, on descendait jusqu'à l'Absie. Voilà, et tout ça s'était couvert par des affichages un mois et demi avant. Il y avait un peu de tout, c'est des animations. Il y avait également des troupes, des artistes. Souvent, on avait des idées par un monsieur qui s'occupait en même temps de tout ce qui était orchestre, mais qui allait au-delà avec des thèmes, des artistes, voilà.
Le thème du western a duré trois ans.
Il est revenu trois années, pas de suite, avec entre autres les années folles, les vaches landaises, le café.
Le cirque.
Le cirque, oui, bien avec Zavata, oui, qui était là.
Vous en pensez quoi de cette exposition ?
Elle est très bien, cette exposition. Elle est effectivement ce que nous avons vécu.
Une exposition très enrichissante autour des 36 heures non-stop de Cerisay à découvrir durant tout ce mois d'avril à la bibliothèque. Notez qu'un temps d'échange et de partage y est organisé ce jeudi, tout à l'heure à partir de 17h. À Saint-Jean-de-Thouars, un mini-concert demain vendredi en avant-première d'un concert solidaire en septembre. Soli Festival signe en effet son retour en 2022 pour continuer son combat en faveur d'enfants souffrant de pathologies lourdes ou maladies orphelines. Steve Fernandez explique les raisons d'une première soirée reggae raga avec Lidiop et M2N, prévue donc ce vendredi 8 avril à la Minute Blonde de Saint-Jean-de-Thouars. Il est au micro colline de notre correspondant en Thouars, c'est Dominique Hérault.
Le showcase du 8 avril permettra à l'association Soli Festival de faire découvrir deux artistes qui seront au festival du 3 septembre 2022 à l'Orangerie du Château de Thouars, sauf qu'ils seront avec leur groupe complet pour Lidiop. Et M2N fera un show un peu plus long. Le but de la manifestation du 3 septembre, c'est de venir en aide aux enfants atteints de handicap dans notre département. Nous apportons du matériel médical ou aide à l'enfant. À partir de cette année, nous allons suivre deux enfants. Donc le petit Antonio atteint d'hémiparésie et la petite Louise atteinte de trisomie 17. Alors, en septembre, la salle est bloquée à 700 personnes. Nous aimerions faire complet, surtout que nous permettons aux gens de venir pour la somme de 10 euros avec une boisson offerte, ce qui nous permettrait d'atteindre notre but et d'aider au maximum de ce que l'on peut faire les enfants atteints de handicap.
Are you ready, my lady?
La voix si singulière de Lidiop pour accompagner les propos de Steve Fernandez, l'une des chevilles ouvrières de Soli Festival. En 2019, le rendez-vous avait connu un gros succès artistique, mais un demi-succès financier. Les organisateurs espèrent transformer l'essai au bénéfice des enfants qui ont besoin de soins permanents et de matériel adapté. Premier rendez-vous intimiste, donc demain vendredi, à la Minute Blonde de Saint-Jean-de-Thouars, avec les deux têtes d'affiche que les Thouarsais retrouveront en septembre, en version large public. On lit toujours que le mercredi est jour du cinéma, mais les Diaboliques préfèrent, eux, le jeudi. Les Diaboliques, c'est le nom de cette association niortaise créée en 2007, avant de se mettre en sommeil. Réactivée par Théo Proupin, elle semble enfin se relancer pour de bon, avec un bureau composé évidemment de cinéphiles, et donc parfois également, dont c'est le métier parfois. Le CGR propose de temps en temps des films en version originale, mais l'association va encore plus loin en proposant des bonus, des débats autour des films sélectionnés pour des soirées spéciales chaque premier jeudi du mois. Et aujourd'hui, ce sera Chantons sous la pluie, hasard de la programmation mais de circonstance. Léa Bourlon est la trésorière de l'association Les Diaboliques, qui fait bien sûr référence au film de Clouzot.
On fait tous partie du milieu de la vidéo, en fait on travaille dans la vidéo, soit en technicien, soit en chargé de prod. Donc ouais, on a repris cet assaut et par contre on essaye d'avoir une programmation assez variée en fait. On va essayer de trouver un milieu entre ce qu'il y a déjà sur Niort, donc c'est-à-dire la programmation du cinéma du CGR et la programmation au cinéma du Moulin du Roc. On veut vraiment trouver ce milieu en fait. Donc ce qu'on va proposer, ça va surtout être des films, on va proposer des films cultes et des films dénichés en fait. Des films cultes et dénichés sous lesquels il y a des choses intéressantes à dire, que ce soit au niveau de l'histoire, de la pré-prod, du tournage, du succès que ça a eu ou pas à sa sortie par exemple. Là ce mois-ci par exemple on va diffuser Chantons sous la pluie. En mars par exemple c'était Mad Max, donc quelque chose d'assez sombre et d'assez violent. Donc là, ce mois-ci, voilà, on change un peu le registre et quelque chose d'un peu plus joyeux avec Chantons sous la pluie.
Chantons sous la pluie ce soir au CGR de Niort à 20h, serait proposé par les Diaboliques. Sachez que l'asso offre aux adhérents un tarif préférentiel unique à 5€ pour tous les films en version originale sous-titrée au cinéma de Niort. À Bressuire, le fauteuil rouge reçoit ce jeudi le réalisateur local Arthur Jarry. Intervenant sur plusieurs projets avec les élèves de l'option cinéma de Genevois, il présentera ses créations que vous pourrez découvrir sur grand écran. Il a notamment réalisé des clips musicaux et des documentaires. C'est à partir de 20h30, entrée 4€. En bref, en raison des mauvaises conditions météo, l'exercice de sécurité civile de lutte contre un feu d'espace naturel qui devait avoir lieu cet après-midi dans le massif forestier de Chizé est annulé. Et puis notez également que toute la semaine prochaine, dès lundi, le département des Deux-Sèvres va poursuivre les travaux d'aménagement du tourne à gauche à l'entrée de Noirterre, côté Thouars. Cet équipement permettra d'accéder au centre hospitalier Nord de Sèvres par la route départementale 4 en cours de construction. Il s'agira de réaliser les structures de chaussée à tourne à gauche ainsi que la couche de roulement définitive. Durant ces travaux, la circulation sera déviée entre Thouars et Bressuire par la Mocarrière et Félabès dans les deux sens de circulation. Une autre intervention sera nécessaire courant mai pour la pose des bordures d'îlots et de la signalisation. Pour ces travaux, la circulation sera maintenue. Un petit résultat de sport handball pour le compte de la Ligue féminine. Les Celloises recevaient hier soir Dijon. Après un début de rencontre maîtrisé, les deux Sévriennes n'ont pas tenu en fin de match et se sont inclinées de 10 buts, 22-32. Les Celloises vont devoir assurer à Bourde péage samedi prochain et lors de la réception de Plan de Cuc le 16 avril, il faudra marquer des points dans l'optique du maintien.